Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Les échasses rouges de Éric Puybarret aux éditions Gauthier-Languereau. L'auteur du texte et des images, Éric Puybarret, a souvent édité chez Gauthier-Languereau de beaux albums à l'atmosphère poétique où évoluent des personnages longilignes qui semblent vivre en apesanteur. On y rencontre souvent des oiseaux à l'élégante silhouette qui nous entraînent dans la danse du vent. Peintre, illustrateur, Éric Puybarret sait nous envoûter par la grâce de personnages rêveurs, parfois inquiets, en quête d'un bonheur indéfinissable dont le mystère nous interpelle. La ville de Marécume était bâtie sur l'eau, les maisons perchées sur des pilotis, les rues formant des rivières, les avenues des fleuves calmes et profonds. Pour se déplacer sans se mouiller, les habitants utilisaient des échasses. Ceux qui avaient un bon sens de l'équilibre se promenaient à hauteur des réverbères. Les autres effleuraient la surface des flots. C'était Léopold qui, de loin, avait les plus hautes échasses. Elles avaient été taillées dans le bois d'un peuplier rouge, l'arbre le plus haut, le plus droit et le plus solide du pays. Grâce à elle, Léopold planait au niveau des toits, 3 ou 4 étages au-dessus des autres habitants. Il s'intéressait d'ailleurs bien plus au ciel, aux nuages et aux oiseaux qu'à ce qui se passait sous ses pieds. Dans cette ville imaginaire, mais qui peut évoquer Venise, évolue Léopold, notre énigmatique héros, ainsi que ses semblables, dont les pieds ne foulent jamais le sol. Ce choix de percher tous les habitants sur des échasses peut être interprété librement. La symbolique des échasses, à travers le temps et les cultures, foisonne en variantes, allant du jeu sportif à la fête rituelle, au théâtre et à la danse. Dans l'histoire qui nous occupe, Léopold, qui a pris le plus de hauteur et surplombe les toits, est très absorbé dans une contemplation du ciel que seul son ami Lapi va venir interrompre. Cette année, je descends parmi les hommes pour la grande fête de l'hiver. Ce soir, nous danserons et chanterons autour du grand feu de la place des lagunes. À bientôt ! Mais Léopold, perdu dans ses pensées, ne l'entendit pas et passa son chemin, guettant les premiers flocons qui se détachaient du ciel. Le soir tombait, l'absence de Lapi tracassait Léopold. Pour la première fois, il se sentait très seul. C'était un vide que ni les nuages, ni les vents, ni les étoiles ne pouvaient combler. Il baissa alors son menton et regarda vers la ville, en bas. Pour la première fois, Léopold va découvrir l'agitation de la ville. Vêtus de leurs plus beaux vêtements, les habitants chantent, rient, allument des lampions. L'auteur joue subtilement avec des teintes souvent froides, mais qu'il parvient à rendre lumineuses. Les effets de brume, dans les tons bleus et verts pâles, sont çà et là ponctués par l'éclat des lampions qui virevoltent dans les rues. Mais la fête va prendre un tour nouveau quand Léopold vit les habitants abattus regagner leur maison par les rues froides. Dans un de ces grands tableaux qui couvrent 2 pages, l'auteur fait s'éteindre peu à peu les rires et les chants et les lampions de la ville. Vous découvrirez le rôle que va désormais jouer Léopold dans ce conte empreint de magie qui fait la part belle à des images tendres, bien servies par un texte court mais riche par son message. Le héros, sorte de Pierrot habillé de blanc, présenté d'abord comme un être solitaire et indifférent au monde qui l'entoure, va se pencher sur les autres et prendre conscience du rôle qu'il peut et doit jouer parmi eux. Lui qui n'entendait rien, lui que les appels des enfants ne pouvaient atteindre, lui qui planait au-dessus des toits et se promenait le nez en l'air, va, contre toute attente, sortir de sa rêverie et s'ouvrir à la solidarité. Cet album, une première fois édité en 2006, vient de paraître en septembre 2021 dans la collection « Les albums coups de cœur » de la Bibliothèque idéale de Gauthier Languereau et pourra plaire aux jeunes lecteurs des 7-8 ans.
Au fil des contes, un recueil publié chez Milan. Du Japon, les 1000 origamis du seigneur Kimotawa, à la Russie, les bulbes d'or du Kremlin, en passant par l'Islande, Ketil Ridur, et le Chili, l'enfant des volcans. Voici un recueil de contes qui fera rêver petits et grands. Écrit par un collectif d'auteurs reconnus, Brigitte Heller-Arfouillère, Jean Combe Noguès, Amélie Sarne, Vincent Cuvelier, Daniel Balsimon, ces contes originaux sont magnifiquement illustrés par Éric Puybaret. 10 récits, donc, parfois inspirés très directement par la tradition orale, parfois inventés. Les contes sont très variés et c'est l'illustration d'Éric Puybaret qui donne son unité au recueil. Difficile de choisir celui que je vais vous lire. Tous ces contes sont beaux et porteurs de valeurs positives. Le récit d'Antoine Boza, Les 1000 origamis du seigneur Kimotawa, est plein de charme et le conte islandais, Ketiridur, fille de paysan, est magnifique. Le titre du conte originaire du Népal, Le soleil sur l'épaule droite et la lune sur l'épaule gauche, est en lui-même une invitation. Mais c'est Le troubadour et le chevalier de Vincent Cuvelier qui m'a tout particulièrement réjoui et que je vais partager avec vous. Le troubadour et le chevalier, un conte de Vincent Cuvelier. Il était une fois. C'est bien les histoires qui commencent par « il était une fois ». C'est comme ça que doit commencer une histoire. Sinon, ce n'en est pas une vraie. Il était une fois donc, il y a très longtemps, dans un pays lointain, un roi. Ce roi, comme tous les rois, portait une longue barbe blanche. Tous les rois doivent porter une longue barbe blanche, sinon ce ne sont pas des rois, pas des vrais. Le roi de ce pays était un très gentil roi, mais il ne fallait pas trop l'énerver quand même. Ses colères étaient devenues légendaires. Dès que quelque chose ou quelqu'un le contrariait, il commençait à passer sa main le long de sa barbe blanche et de l'autre frottait son gros ventre, comme on le fait avant un bon repas. Or, ce jour-là, le roi était assis sur son trône. Comme c'était un gros roi, c'était un gros trône. Il somnolait comme on le fait après un bon repas. Oh, ce jour-là, il avait mangé léger. À peine 3 poulets, 2 rôtis, 5 gâteaux, au chocolat, ses préférés. Une petite fille entre, traînant une lourde épée derrière elle. Les vêtements déchirés, crottés, les cheveux dans tous les sens, un œil au beurre noir et la goutte au nez. Alors, le roi ouvre un œil, puis deux. Sa main grimpe lentement jusqu'à sa barbe et commence à la frotter tandis que l'autre main fait des ronds sur son gros ventre. Alors, les valets, les conseillers, les pages et les troubadours commencent à chuchoter. « Mon Dieu, le roi va s'énerver, le roi va s'énerver !» L'un va se cacher sous la table, l'autre derrière une tapisserie, le dernier dans un tonneau rempli de vin. Le roi ne fait que répéter. « Ça va pas, ça va pas, ça va pas du tout, Susan !» crie-t-il en regardant la petite fille. « Tu as vu comme tu es fagotée? Tu as encore été te battre avec un petit paysan? Tu sais pourtant que je te l'ai interdit !» Suzanne regarde le roi bien dans les yeux. « Suzette, Suzette, mon bichon, tu es une fille et tu dois aller t'amuser comme toutes les petites filles. Une fille qui se bagarre avec un garçon, c'est pas une fille. Enfin, pas une vraie fille. Pourquoi tu joues pas à la poupée ?»« Pff, la poupée, c'est nul, » répond Susan. « Et la couture? Tu n'apprécies pas la couture? C'est pourtant très intéressant. Ouais, c'est encore plus nul, » râle-t-elle en reniflant. « Bon, Je sais, la musique, ça c'est bien la musique, c'est joli, c'est calme. Pfff, c'est encore plus nul de chez nul, soupire Suzon en faisant une grimace. Mais enfin, tu n'aimes rien. Si? Moi, ce que j'aime, c'est donner des grands coups d'épée, monter à cheval, tabasser les dragons, donner des nions. Le roi caresse sa barbe. Ma petite perle, mon amour, tu commences à me taper sur les nerfs. Dimanche prochain, il y a un grand tournoi. Tous les plus grands chevaliers du royaume seront réunis au château. Je veux que tu prépares une chanson, la plus belle chanson du monde, que tu interpréteras lors du banquet. Tu as une semaine pour répéter. En attendant, monte dans ta chambre, tu es privé de dessert. Suzanne monte en grommelant dans sa chambre. Brr, c'est nul, m'en fous, j'aime pas les desserts. Brr. Le roi est satisfait. Déjà, ses mains retombent le long du trône. Ses yeux, doucement, se ferment à demi. Les serviteurs, prudemment, sortent de leur cachette. Quel délice, il va enfin pouvoir replonger dans sa sieste. C'est alors qu'entre un petit garçon. Grand, svelte, très bien habillé, il tient un luth entre ses bras. Le roi ouvre un œil, deux yeux, sa main lentement monte vers sa barbe, tandis que l'autre fait des petits ronds sur son ventre. Les serviteurs, prudemment, jettent un regard. Mon Dieu, dit l'un. Le roi va s'énerver, dit un deuxième. Ips, répond celui qui s'est caché dans un tonneau. Le roi prend sa respiration. Ça va pas, ça va pas, ça va pas du tout, Jason. Je veux que tu fasses de la lutte, pas du luth. Tu as encore été jouer de la musique avec les troubadours. Jason baisse les yeux. Jason, mon héros, mon vainqueur, mon champion, tu es un garçon et tu dois t'entraîner à la bagarre comme tous les garçons. Un garçon qui passe ses journées à chanter et à écrire des poèmes, c'est pas un garçon. Enfin, pas un vrai. Pourquoi ne vas-tu pas faire du cheval? Oh, c'est trop haut. Et l'épée, tu n'aimes pas l'épée? Bof, ça pique. Et casser la figure avec des casse-têtes, tu n'aimes pas? C'est pourtant très intéressant. Bah, moyen, répond Jason en faisant la grimace. Mais enfin, tu n'aimes rien. Si, se réjouit Jason. Moi, ce que j'aime, c'est composer de super jolies musiques et après chanter des poèmes en prenant une belle voix. Le roi passe la main dans sa barbe. Mon garçon, mon héros, mon champion, tu commences à me taper sur les nerfs. Voilà, dimanche prochain, il y a un grand tournoi. Tous les plus grands chevaliers du royaume seront réunis au château. Je veux que d'ici là, tu t'entraînes et que tu deviennes le meilleur chevalier du monde pour leur mettre la pâtée. Tu as une semaine. En attendant, file dans ta chambre, tu es privé de dessert. Jason s'éloigne en grommelant. Brr, c'est nul, et en plus j'adore ça, moi, les desserts. Bon, je ne vous en lirai pas plus. Vous commencez sans doute à entrevoir ce qui va se passer. Ce livre est sur le réseau des médiathèques de l'agglomération. N'hésitez pas à l'emprunter et à le partager avec vos enfants et vos petits-enfants. Il se lit de 7 à 77 ans.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute!